voudrais vous raconter l'histoire de l'injonction, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui ploie sous le poids du « tu dois ». Tu dois être une bonne mère, tu dois être une working girl efficace, tu dois être une femme souriante et surtout très sexy. Tu dois. Et même en plein été, ça ne s'arrête pas. Tu dois trouver les meilleures sardines de l'île, acheter ces tomates bio ici et pas là. Faire le bon yoga à la bonne heure avec la bonne prof. Et puis la nuit venue, tu dois être chaude comme la braise parce que c'est la saison. Mais de trop devoir, elle n'en peut plus. De trop devoir, de trop vouloir, elle ne sait plus où est son désir. Elle ne sait même plus d'où il vient, de quel ciel il tombe. C'est écrasant. Tu dois. Est-ce que c'est la voix de son père quand elle était enfant? Est-ce la société qui le lui ordonne? Ces nouvelles tables de la loi sont-elles gravées dans les magazines féminins? Est-ce le regard de ses copines? La voix de cet auteur de développement personnel dont elle achète désormais tous les opus? C'est tout cela à la fois, mais ce n'est même plus la question, tant elle a intégré, intériorisé ses injonctions. Désormais, elle se tyrannise très bien toute seule. Il y aurait pu avoir, entre ces différents tyrans, une forme de concurrence qui la libère. Quand les maîtres se font la guerre, les esclaves prennent la fuite. Mais elle n'a même pas cette chance, cette grosse voix qui lui répète qu'elle doit, donc qu'elle peut, c'est bien la sienne. D'ailleurs, elle ne l'entend même plus. Elle lui obéit d'autant plus qu'elle ne l'entend même plus. C'est dommage quand on y songe. Dommage parce que bientôt, elle va craquer complètement. Et pendant de longs mois, ne plus rien pouvoir du tout. Elle aura alors au moins le loisir d'entendre enfin l'atroce ironie du « quand tu veux, tu peux ». Dommage également parce que le « tu dois » bien dosé, bien pensé, bien vécu, et ce qui élève l'homme au-dessus des autres animaux, faisant de lui un être social, responsable et même moral. Comment alors ce qui fait notre grandeur peut-il faire également notre perte? Est-ce une question de quantité? Est-ce une question de manière? Peut-on apprendre à devoir d'une manière plus relâchée, plus souple, plus heureuse? Peut-on sortir de la prison des injonctions? Pour en parler ce matin, de cette prison des injonctions et de la libération qui est possible, j'ai la joie de recevoir le philosophe Fabrice Midal, philosophe mais aussi fondateur de la plus grande école de méditation laïque de France, Fabrice Midal, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à nous foutre la paix, à retrouver enfin le goût de vivre.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Fabrice Midal, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Vous êtes incroyablement solaire, là. Vous avez une veste jaune, des lunettes jaunes, des mocassins jaunes. Déjà, je trouve que ce soleil fait du bien.
Merci beaucoup.
Alors, Fabrice Midal, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette femme que je viens d'évoquer et cette manière comme ça dont elle est écrasée par des injonctions qui, en fait, viennent d'elle-même?
Viennent de la pression, vous l'avez très bien dit. Est-ce que ça vient de son père? Est-ce que ça vient de la société? On est tous pris par des injonctions. Moi, quand j'ai écrit mon livre « Foutez-vous la paix », c'est venu, j'avais un rendez-vous avec une relation de travail et je vois la personne très très un peu tendue. Alors j'hésite, dans cette situation, on n'ose pas demander, puis je lui demande « mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Elle dit « je me suis mis dans une colère folle ce matin, j'aurais pas dû, en plus je vous vois vous ». Moi, c'est le problème, c'est comme j'enseigne la méditation, tout le monde croit que je dois être zen, donc ça crée des situations.
Mais quand on vous connaît, on sait que c'est pas le cas.
Pas du tout. Donc ça crée des quiproquos. Et puis je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me raconte il y a une nouvelle stagiaire dans le bureau et elle était maltraitée et elle a pas supporté, elle s'est mise en colère. Mais je lui dis mais foutez-vous la paix. Et elle était complètement étonnée que je lui dise ça et j'ai vu l'importance. On est pris par toutes ces injonctions dont on ne sait même pas d'où elles viennent, dont on ne sait même pas pourquoi on les vit et qui nous écrasent. Et c'est un poids énorme. Donc la première chose, c'est juste foutez-vous la paix de faire ce geste sans raison. Mais à la différence de ce qui a été introduit dans l'émission, c'est pas du tout lâcher prise. Moi, oui. Quand on me dit lâche prise, ça m'énerve. Donc
si vous êtes en colère, quand on vous dit lâche prise, c'est un peu comme l'ostéopathe qui vous dit de vous détendre, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Donc ça marche pas. Donc la grande question, c'est dire à quelqu'un lâche prise ou détends-toi. Ben, ça
alors on est
pas
dans
le cœur
du sujet de votre livre. Je vous rappelle que ce livre, Foutez-vous la paix, c'est plutôt Le titre exact, c'est « Foutez-vous la paix et commencez à vivre ». Ça a été un incroyable succès. Je précise d'ailleurs que vous êtes un être un peu bizarre, parce que d'un côté, vous écrivez des livres très grand public comme ça, très accessibles et qui ont beaucoup de lecteurs, mais vous avez aussi une autre part de vous qui cultive des jardins secrets plus pointus, qui vont de l'art moderne à d'autres aspects de la spiritualité. On en parlera après. Mais justement, vous venez d'évoquer quelque chose. Et je crois que tout de suite, une question se pose. Quelle est la différence entre réussir à se foutre la paix et lâcher prise?
Là, si je suis en colère et que je lâche prise, il faut que je ne sois plus en colère. Si je me fous la paix, je me fous la paix, je sens que je suis en colère, c'est comme ça. Ça ne me plaît pas, mais je suis obligé, j'arrête le cercle vicieux du contrôle. Voilà, je suis en colère.
Vous voulez dire que j'accepte,
j'entre en rapport à ce qui se passe. C'est même pas vraiment j'accepte, je me fous la paix, c'est comme ça. Il y a ça qui est là, donc j'accepte.
Mais justement, quel est le mot?
J'entends, moi je dirais consentir, je trouve c'est bien. Accepter, mais accepter, consentir, se relier à, arrêter de...
Alors, désolé, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, quand je suis pris par la rage, la colère, si on me dit relie-toi à ta colère, ça me suffit pas.
Non, mais en général, vous êtes en colère, et puis vous vous en voulez d'être en colère, et puis vous justifiez que vous avez raison d'être en colère, et donc à un moment vous dire juste fous-toi la paix, t'es en colère,
c'est comme ça.
Ça soulage un peu.
Ouais, ça soulage
par rapport à toute la pression, parce qu'il y a une pression qu'on a intégrée. Il faut qu'on soit calme, il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit efficace, c'est ça, et il faut qu'on soit parfait. Donc au fond, je dirais ce qu'il faut déconstruire pour votre personnage, c'est pourquoi il faudrait être calme. Non, il faut pas être calme. Être en paix, c'est pas du tout être calme. Donc accepter la vie. Quand la mer est calme, les bateaux peuvent plus avancer. Qu'est-ce que c'est cette idée qu'on ne devrait avoir aucune émotion? C'est extraordinairement culpabilisant.
Donc ça, déjà, c'est intéressant, cette distinction entre être en paix et être calme.
Oui, la paix, c'est beaucoup plus ouvert. Je peux être en paix même si j'ai du chagrin. Je peux être en paix. Donc déjà, première chose, arrêtons de vouloir être calme. La deuxième chose, c'est l'idée qu'il faudrait être parfait. Ça, c'est une idée, c'est terrorisant, parce qu'on n'est jamais parfait. Donc c'est une manière de refuser d'être humain. Alors évidemment, il y a tout un discours social aujourd'hui, un discours économique, un discours social, un discours du management, qui pousse toujours. Si on va faire les distinctions entre différentes formes d'injonctions, mais une des injonctions il y a des injonctions qui sont légitimes, mais des injonctions qui ne sont pas légitimes, c'est l'injonction qu'est en train de s'imposer aujourd'hui, c'est une injonction infinie dans laquelle il n'y a pas de réponse. Et donc, par exemple, il faut toujours faire plus. Donc on voit, par exemple, dans certaines formes de management, on donnait des objectifs aux gens, et puis on a trouvé qu'au fond, si on donne des objectifs, les gens peuvent à un moment s'arrêter et se reposer, donc il ne faut plus qu'il y ait d'objectifs, il faut toujours faire plus.
Ou alors on leur donne des objectifs volontairement inatteignables.
Inatteignables, ou il faut toujours faire plus. Et donc il n'y a jamais la possibilité de la moindre satisfaction. Donc ça, l'injonction dans laquelle vous ne pouvez jamais vous détendre, il faut toujours faire mieux, ça rend fou.
Mais si je vous écoute bien, au début, je me dis, oui, il faut pas vouloir être parfait, mais ça peut être bien de vouloir toujours s'améliorer. Mais en fait, non. Finalement, c'est une injonction.
Vouloir s'améliorer, non. Vouloir s'améliorer, ça va. Vouloir être parfait, c'est impossible. Après, l'autre point qu'il faut faire la distinction, la grande distinction, c'est est-ce que l'injonction, elle vient de l'extérieur, elle m'écrase, je ne l'ai pas pensé, je la subis, ou est-ce que l'injonction vient de moi-même? Alors évidemment, en philosophie, c'est la grande question qui apparaît avec Rousseau et Kant, de l'idée que quand c'est une autonomie, obéir à la loi qu'on s'est prescrite, dit Rousseau dans une phrase que je trouve absolument géniale, est liberté, parce que si j'obéis à une loi que je me suis prescrite moi-même, alors je ne perds pas ma liberté. Donc si je décide de faire quelque chose, on peut se mettre des injonctions, de venir dans votre émission et d'être là à l'heure. Donc je m'impose le fait d'être là à l'heure. Je suis pas du tout contre l'idée qu'il faut s'imposer des choses. Mais ce qui va pas, c'est toutes ces règles qu'on s'impose, qui n'ont pas de sens, qui sont infinies, qui nous font perdre nos moyens. Et voilà, avec l'idée, il faut être calme, on le sera jamais. Il faut être parfait, on le sera jamais. Il faut être toujours plus performant, on le sera jamais. Et au fond, c'est un déni de notre humanité. Moi, ce qui me pose problème, c'est pas tant les injonctions, c'est comment ça va dans le déni de notre humanité. Peut-être faut que je raconte l'anecdote que je raconte dans mon livre, qui est toute simple, mais qui va être éclairante. Quand j'étais enfant, j'ai participé à un concours de château de sable. Alors, moi, j'avais bien voulu faire comme il faut.
C'est une anecdote qui m'avait tiré une petite larme.
Moi, je faisais bien comme il faut. Donc, je regarde dans un livre comment on fait les châteaux au Moyen-Âge. Et puis, alors, on avait une heure. j'avais peut-être 11 ou 12 ans, donc je fonce pendant une heure, je travaille comme un fou, et après une heure, ils arrêtent le concours, et j'avais fait une tour et un mur. Donc j'étais dépité d'avoir pas fini mon château, et je me tourne, et j'étais le seul enfant à avoir fait un château au concours de Château de Sable. Les gens avaient tous compris qu'on peut faire ce qu'on veut dans un concours Château de Sable. Et c'est ma sœur qui a gagné le premier prix, parce qu'elle avait fait une coccinelle. Alors, une coccinelle en sable, c'est une grosse boule et une petite boule. Elle a fait un joli sourire à la coccinelle. Elle avait pris un pot de confiture de fraises à la maison pour faire les tâches de la coccinelle. Et donc, du coup, elle a gagné. Pourquoi je raconte cette anecdote? Parce qu'on voit bien que se foutre la paix, c'est pas rester dans son lit et ne rien faire. C'est enlever les injonctions qui nous empêchent de faire les choses.
Et peut-être aussi qui nous empêchent de les faire à notre manière.
À notre manière.
Et en étant créatif.
En étant, voilà, moi, je me suis pas foutu la paix. J'ai tellement voulu bien faire. On veut tellement faire plaisir aux autres, tellement, on veut tellement bien faire, qu'on n'y arrive pas.
Mais vous vous êtes imposé quelque chose en projetant finalement une attente qui n'existait pas.
Qui n'existait. C'est souvent
et c'est
le cas.
Ce qu'on voit tous les jours. Hein.
C'est ce qu'on voit.
On voit des jeunes passer des concours, on voit des gens passer des entretiens d'embauche, et en fait, ils ont une idée de ce qu'il faudrait être, et au fond, cette idée les tyrannise, alors que bien souvent, ça marcherait mieux si c'était simplement en relation, en empathie, en écoute, au lieu de s'imposer comme ça une forme de devoir-être.
C'est ce qu'on dit, c'est ce que tous les parents ont dit à leurs enfants qui devaient passer un concours, un examen, quand ils révisent jusqu'à 2 heures du matin, arrête, tu vas faire un hors-sujet, fous-toi la paix. Enfin, ils disent pas forcément fous-toi la paix, mais c'est la même idée, c'est ce mouvement-là. Mais dans votre introduction, vous avez donné un peu la clé, c'est quand vous avez dit « elle est coupée de son propre désir ». Et donc, au fond, l'injonction nous brise, nous coupe de notre propre désir. Coupant notre propre désir, on peut pas le faire.
Bien sûr.
On peut pas y arriver. Donc, au fond, foutez-vous la paix, c'est pas ne faites rien, c'est ne renoncez pas à votre désir, mais ne vous laissez pas faire par toutes ces injonctions qui vous font perdre vos moyens.
Est-ce que vous pensez que ce désir, finalement la porte d'accès à notre propre désir, nous est parfois fermée par le fait que nous voulons trop?
Ah ben oui, le fait de vouloir trop nous coupe complètement de l'écoute de la situation. Donc ça, alors, au fond, je dirais, la grande question philosophique pour moi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut sortir de cette illusion qu'il y a... un mois isolé qui va prendre une décision volontaire qui va emmener à un résultat qui semble évident, au fond, c'est un vrai poison. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, je peux, c'est pas parce que je peux, je veux que je peux. Et l'idée, t'as qu'à vouloir, quelqu'un qui est angoissé et on lui dit, mais si tu veux, tu vas y arriver, ça règle
c'est terriblement
pas toutes les questions.
Contre-productif dans certains cas. Mais ne peut-on pas parfois quand même vouloir de la fidélité à son désir?
Oui, mais à ce moment-là, c'est plus, on revient à ce c'est plus une volonté extérieure qu'on s'impose à soi-même, c'est quelque chose qui devient de cette autonomie, de cette écoute, de cette relation à soi.
Je fais une petite précision pour nos auditeurs, je vous interromps, mais c'est parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant, mais qui en fait mérite question. Vous êtes référé à l'humanisme, donc vous êtes philosophe, en plus de diriger cette école de méditation, et d'être enseignant en méditation, donc déjà c'est intéressant cette double casquette, et en tant que philosophe, vous vous référez à l'humanisme classique, Rousseau et Kant, qui d'ailleurs étaient amis, qui avait une correspondance, et qui tous les deux posent un idéal d'autonomie, à savoir si c'est moi qui veux obéir à la loi, au fond, elle ne s'impose pas à moi de façon douloureuse, parce que je suis libre dans la mesure où je suis autonome et j'ai décidé d'obéir. Après, Freud arrive. Et qu'est-ce que dit Freud, un siècle et demi après? Il dit, oui, mais attention, parfois, on a juste intériorisé une norme un peu tyrannique qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire de la société, d'une forme de morale autoritaire, et on croit qu'on est autonome, alors qu'en fait, on s'auto-tyrannise.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là pour être sûr de ne pas être dans ce cas, de ne pas être dans le leurre, dans l'illusion, au fond, dans l'illusion de l'autonomie?
Accepter qu'au fond, on a toute sa vie à apprendre à se foutre la paix. Moi-même, c'est pas parce que j'ai écrit « Foutez-vous la paix » que j'ai pas encore à apprendre à le faire et à voir par où on est prisonnier, par où on n'est pas libre. On n'est pas libre parce qu'on le décide, au fond. C'est un travail de voir qu'est-ce qui est vraiment nous et qu'est-ce qui est le poids écrasant.
Peut-être en faisant une psychanalyse, par exemple,
ou en faisant de la méditation, ou en allant voir de la peinture, ou en écoutant de la musique, ou en faisant de la philosophie, ou il y a plein de manières différentes.
Nous sommes sur France Inter avec Fabrice Midal, on va essayer d'approfondir cette question de comment on fait pour se foutre la paix alors qu'on est comme ça, serré, écrasé, par pas une seule injonction, mais plein d'injonctions, parfois contradictoires, mais il me semble que peut-être les Beatles peuvent nous aider.
Time flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change.
C'était les Beatles, Across the Universe.
Sous le soleil de Platon.
T'es tendu comme une crotte.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas.
Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Fabrice Midal pour essayer d'apprendre à se foutre la paix et à commencer à vivre. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos livres, Fabrice Midal. Avant d'écouter les Beatles, on en était à cette idée que peut-être la méditation ou la psychanalyse pouvait nous permettre d'arriver à la douceur de ce « c'est comme ça ». Et c'est un « c'est comme ça » qu'on est habitué à entendre de manière résignée, de manière fataliste, mais que vous nous invitez à entendre autrement. Un c'est comme ça tendre, un c'est comme ça souriant. Peut-être, j'aurais envie de dire, le c'est comme ça d'un stoïcien qui aurait découvert la méditation.
Ah bah non, pas du tout. Parce qu'alors là, s'il y a bien une école dont je suis le plus loin possible, c'est les stoïciens. Mais je comprends votre question. La méditation aujourd'hui, je suis presque gêné que je doive en parler, puisque pour la plupart des gens, ça s'est imposé aujourd'hui. C'est une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, ça me parle pas du tout. C'est-à-dire, soyez calme, soyez zen. Et l'idée stoïcienne du recul hors du monde, vous savez, la grande idée d'Épictète, c'est... avec son maître lui tord la jambe et lui dit si tu continues tu vas la casser, il la casse, il dit ben voilà je t'avais dit t'allais la casser, donc on est stoïcien, on ne ressent rien. Alors là je comprends absolument pas, moi j'aurais hurlé et peut-être que le maître ne m'aurait pas cassé ma jambe. Et cette idée qu'il
tant
faut
mieux.
être Et puis cette idée qu'il y aurait des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous, et donc ce qui ne dépend pas de nous ne devrait pas nous atteindre, ben moi, si un de mes amis est malade, ben ça m'atteint, même si ça ne dépend pas de moi. Donc je trouve ça très abstrait. Et donc la méditation, comme elle est présentée aujourd'hui, cette approche, en plus cette idée qu'il faut être pleinement conscient de tout ce qu'on fait, ne me parle absolument pas, c'est pas du tout ça. Pour moi, méditer, c'est se foutre la paix. C'est pas essayer d'être calme, c'est pas essayer de gérer son stress, c'est pas essayer de plus avoir de pensées, c'est pas... Non, c'est juste, pendant un moment, je me fous la paix. Je m'autorise à être celui que je suis. C'est comme quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, ben, vous êtes dans sa présence et d'un seul coup, vous vous sentez autorisé, simplement, à être ce que vous êtes.
Se foutre la paix,
c'est... Eh ben, c'est ça, c'est être autorisé, c'est sentir qu'on est autorisé à pouvoir être l'être humain que nous sommes. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec toutes ces injonctions. Enfin, c'est juste horrible comment c'est ce que la méditation est devenue. C'est vraiment...
Quand vous enseignez la méditation dans votre école, qui s'appelle, je crois, l'école de méditation,
c'est ça.
Qui est donc une méditation laïque, vous rencontrez des hommes et des femmes qui viennent de cette pratique de la méditation que vous dénoncez et vous envoyez les effets pervers.
Ben oui, parce que c'est... Oui, et souvent ils disent « Ah, waouh !» Ah, c'était ça la méditation. Je voyais bien que c'était une nouvelle injonction. Je méditais pour me torturer. Comme vous disiez, il faut méditer parce qu'on ne devrait pas sentir ce que l'on sent. Et donc, au fond, c'est basé sur une haine de soi. Au fond, c'est ça le problème, c'est toutes ces injonctions. C'est je ne dois pas être comme ceci, je ne dois pas être comme cela. Donc, ça devient vraiment très difficile.
Vous êtes dur. Vous êtes dur. Vous êtes dur. Vous êtes dur.
Alors Fabrice Midal, je vous vois sourire et presque rire en écoutant Philippe Catherine. Est-ce que
on est dur avec nous-mêmes. C'est ça la clé de. C'est pas les injonctions pour les injonctions qui posent problème. C'est juste qu'on est tellement dur avec nous-mêmes. On s'en veut d'être comme on est. On s'en veut de sentir ce qu'on sent. On s'en veut d'être humain. Et toutes ces injonctions font que on est encore plus coupable d'être simplement des êtres humains. C'est insoutenable. Et donc évidemment, et on voit bien qu'on comprend rien à ce qui se passe parce que les gens font un burn-out et on leur dit mais c'est parce que c'est de votre faute parce que vous avez pas assez bien géré votre stress. Au lieu de dire juste excusez-nous, on a abusé de vous parce que les gens qui en ont rien à foutre et qui sont feignants, c'est pas eux qui vont faire un burn-out. Les gens qui font un burn-out, c'est les gens qui travaillent, qui prennent à cœur leur travail, qui prennent
trop
à cœur. Et il y en a qui veulent trop bien faire. Donc on comprend pas du tout que le problème c'est pas que les gens lâchent pas prise, le problème c'est que les gens ils veulent trop bien faire.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un type d'injonction propre à notre époque ?
Je trouve que ce que dénonçait l'école de Palo Alto avec la double injonction qui
école de Palo Alto, c'était quelle époque ?
C'est dans les années 60-70 Vlasavic et Batson. On commençait à décrire qu'est-ce qui se passe quand on a une injonction contradictoire. Il y a deux injonctions qu'on fait en même temps. C'est-à-dire, et on voit bien, alors, un des exemples qui raconte, c'est une mère offre à son fils deux cravates, une bleue et une rose, et le lendemain, il vient avec la cravate bleue, il dit, mais tu n'aimes pas la cravate rose? Ouais. Donc là, il n'y a aucune possibilité de répondre. Mais on voit dans notre société, il faut être ambitieux, mais détendu. Il faut être agressif, mais calme. Il faut
réussir, mais cool.
Voilà. Donc, cet ensemble d'injonctions qu'on a fait que personne ne peut y répondre et ça crée ce que Batson décrit comme ce qui entraîne la folie.
Bien sûr.
C'est aussi les parents divorcent et demandent à leur enfant qui tu préfères de papa et maman, laissez-moi tranquille. Ah non, mais tu es un ingrat. Donc il y a ça qui est très au cœur. Vous êtes énervé, calmez-vous. Vous pouvez pas, c'est impossible. Donc il y a quelque chose d'une et je trouve que il y a un élément aujourd'hui de violence sociale qui participe d'une injonction qui nous brise et nous brûle de l'intérieur. Le burn-out, c'est intéressant. C'est comme, on est comme brûlé de l'intérieur par les injonctions. Donc c'est pour ça que
d'ailleurs,
c'est pas du tout un sujet anodin, ce donc par les injonctions. Les gens sont en train, enfin il y a une souffrance énorme.
Et finalement, même une injonction en apparence bonne peut avoir des effets pervers très graves. Ça me fait penser à une structure que Freud avait bien mise en évidence dans son petit chef-d'œuvre Malaise dans la civilisation. C'est exactement notre sujet, même si c'est un peu dans un autre, une autre type de société. Freud disait qu'il y a une injonction qui est « tu ne dois pas être agressif ». Voilà. Alors qu'on a de l'agressivité. Le résultat, c'est qu'on s'interdit d'avoir conscience de cette agressivité qu'on a à l'égard des autres. Et Freud dit, du coup, on va se l'introjecter et s'agresser soi-même au travers de ce qui va devenir le sentiment de culpabilité, qui va être au fond la conséquence de cette injonction, qui est pourtant une bonne injonction.
Ça, c'est très important parce que on voit bien que les bons sentiments, soyez détendus, soyez cool, ne soyez pas agressifs. Font plus de mal que de bien. Ce qui aide les gens, c'est d'accepter l'ambivalence. Tant qu'on n'accepte pas l'ambivalence du réel, le fait qu'il n'y a pas une sorte d'amour déconnecté de son contraire, c'est extrêmement difficile et insoutenable. Et on ne fait pas la paix avec le réel, on est en conflit avec la réalité. Et quand on est en guerre contre le réel, le problème, c'est qu'on est sûr de perdre.
Exactement.
On peut pas gagner contre le réel. Donc
le réel, c'est ce contre quoi on se cogne, disait Lacan.
Oui, donc il vaut mieux essayer de le rencontrer et de voir comment on peut le transformer plutôt que se taper la tête contre lui.
Alors j'ai vu dans vos yeux un petit sourire quand j'ai parlé de Freud et puis de Lacan, mais paradoxalement, ce que vous proposez comme étant ce à quoi on peut arriver grâce à la méditation, c'est-à-dire une manière de se foutre la paix et de dire voilà, c'est comme ça. Au fond, c'est pas parfait, mais c'est comme ça. Il me semble que c'est aussi ce à quoi on peut arriver par une psychanalyse et par une pratique du divan. Pour moi, une psychanalyse réussie, c'est pas quand j'ai réglé mes problèmes, quand je m'en suis sorti, quand le bras de fer a été triomphal, mais quand, au fond, je suis capable de dire, de manière douce, de manière tendre, c'est comme ça.
Absolument, parce que vous avez vu ce que vous ne voyez pas qui vous coince, et au lieu de vous en vouloir, la reconnaissance de ce qui vous emprisonnait vous libère. Et ça, c'est absolument... C'est exactement... Vous avez raison. Le point, c'est ce qui nous torture, nous fait du mal, c'est pas en le niant, en essayant de se calmer que ça va aller mieux, c'est en le rencontrant. Donc, la psychanalyse, il y a plein d'autres approches, mais disons, ce qui me semble vraiment central, c'est... Il y a deux manières d'approcher les problèmes qu'on a. Soit on veut prendre un effaceur et les effacer, et je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette perspective. On va effacer nos problèmes, on va effacer les émotions, il faut pas être trop intense. On va prendre un cachet, et de l'autre, quand il y a une émotion, on essaye d'entrer dedans, de la comprendre, d'entrer dans son intensité, pour voir par où on peut la transformer. Et moi, au fond, ce qui me semble, comme voie, pour la méditation, comme pour la psychanalyse, comme pour toute thérapie, c'est celle qui nous proposerait d'entrer en rapport à l'intensité de la vie, plutôt que de la fuir.
Me revient soudain, en vous écoutant, le titre d'un de vos livres, « La tendresse du monde ». J'aime bien ce titre. Alors, je sais que son contenu, c'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, il y a cette notion de tendresse. N'être pas trop dur, pour reprendre la chanson de Philippe Catherine. Et comment on fait si on n'y arrive pas? Est-ce que le risque, c'est pas qu'on tombe dans une nouvelle injonction qui soit elle-même problématique?
C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'à un moment, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut avoir un sens de l'humour, quelque chose qui arrête la mécanique. C'est pour ça que moi, j'aime bien la méditation. On se pose, on arrête. Pendant un moment, on rencontre ce qui est. On laisse tomber nos jugements. On se fout la paix vraiment. Je trouve qu'en se foutant la paix, on débloque cette manière, infinie, qu'on a. Je devrais pas faire ça. Je m'en veux de penser ça. Je suis agressif, je devrais pas être agressif, je devrais pas ne... Enfin voilà, le
méditation infini. Et humour, c'est un couple qu'on rencontre rarement.
Mais pourtant, c'est tellement proche.
Qu'est-ce que vous proposez dans votre école?
Ce qui est devenu la méditation, c'est plus de la méditation, c'est une technique de marketing qui vise à que les gens soient plus performants.
Vous diriez que la méditation est un scepticisme?
Je dirais la méditation aujourd'hui... Non, ça dépend. Enfin, la méditation, comme moi je l'entends, elle est ni stoïcienne ni sceptique. Elle est beaucoup plus socratique.
Le philosophe, ah oui, socratique.
Elle est beaucoup
pourquoi
plus socratique parce que il s'agit pas de fuir la réalité. Moi, je pense que les stoïciens sont l'antipode de Socrate.
Ah, oubliez les stoïciens qui vous énervent. Parce que sceptique, quand même. Le sceptique, il a cette idée de se dire voilà, je deviens presque spectateur de mes jugements, de ce qui pourrait être mes convictions.
Moi, je crois pas qu'il faut pas prendre parti. Il faut être avec. Il faut rentrer dans le mouvement de la vie. Et donc non, on peut pas être à distance.
Laisser passer ses émotions comme des bouts de bois à la surface d'un fleuve, c'est pas ce que vous dites.
Ah, mais je trouve ça absurde.
Enfin, c'est, vous avez, alors, vous avez, vous c'est avez, très est-ce, intéressant.
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire ça? C'est-à-dire, si vous êtes en colère, laissez passer ça comme des bouts de bois dans l'eau. Ou alors, les gens qui font la méditation aujourd'hui disent, faut laisser passer les pensées comme des nuages dans le ciel. D'abord, c'est d'un chiant total. Je comprends. Après, les gens me disent, je pratique depuis 6 mois, je m'emmerde. Je dis, ouais, si vous faites ça. Non, c'est, vous entrez en rapport avec. Moi, je dis, c'est plutôt, vous êtes le fleuve et vous êtes les bâtons. Vous êtes la vie, vous êtes le mouvement de la vie. Donc, bien sûr, il y a les bâtons, mais il y a aussi le fleuve, il y a aussi le ciel. Et c'est ça. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un, il y a des choses agréables, il y a l'intensité de l'amour, il y a des désaccords, il y a des différences, il y a de l'ennui, et on entre en rapport à ça, on laisse être tout ça. C'est beaucoup, ça me semble beaucoup plus heureux comme approche.
Et c'est un peu cosmique?
Cosmique ou...
Entrer en relation avec le monde, avec les arbres, avec le soleil.
Oui, avec la vie. Avec la vie.
Vous connaissez ce dessin de Sempé qui s'appelle Le Salut au Soleil? On a un homme comme ça qui se lève le matin et qui va au bord de sa piscine. Il est un peu bedonnant, c'est pas un grand nageur. Et il ouvre les bras comme ça et il dit bonjour au soleil.
Oui, c'est l'émerveillement qui peut surgir à n'importe quel moment. Qui est au cœur de la vie et se laisser et ne pas vouloir être celui qui contrôle tout, parce qu'au fond foutez-vous la paix, c'est accepter qu'on peut pas tout contrôler, que on a l'idée que si un jour je contrôlerai tout, je serai heureux, et on est malheureux parce qu'on contrôle pas tout, mais en fait on est malheureux parce que notre désir de contrôle est impossible. Et ça, je crois que c'est vraiment central. Notre désir de contrôle, c'est lui qui nous rend malheureux parce que c'est lui qui est impossible, on n'y arrivera jamais.
Quand je vous écoute là, je me dis que finalement, le mot qui vous a un peu heurté tout à l'heure, de lâcher prise, si on l'entend comme ça, redevient sensé.
Oui, mais c'est tout de suite dans la voix. C'était on va parler de lâcher prise. Ça a l'air complètement déconnecté du réel. C'est pour les voilà. C'est et qui témoigne aussi de quelque chose de très profond. C'est on a beaucoup de mal dans notre société d'arriver à parler de cette dimension existentielle, de cette dimension personnelle de comment ce que les gens vivent, on est tout de suite pris par un discours extraordinairement social.
Et normatif.
Normatif et social. C'est-à-dire on parle du social. Et c'est très rare qu'on parle de l'expérience personnelle et intime qui est la nôtre. Et
quand vous enseignez la méditation, enfin quand vous dirigez, je crois que c'est un terme un peu bizarre d'ailleurs, mais quand, je sais pas comment dire, vous proposez à celles et ceux qui sont là en présence d'accueillir aussi leur singularité, ou alors s'ouvrir à ce qui n'est pas eux-mêmes.
En fait, ça revient au même. Parce que quand vous acceptez qui vous êtes plus ouvert au monde et à ce qui se passe, tandis que si vous êtes, si vous en voulez d'être, vous pouvez pas vous ouvrir. Enfin,
Encore faudrait-il d'ailleurs être vraiment. Pascal disait, on a l'illusion comme ça qu'il y a au fond de chacun un noyau qui serait sa singularité, un oignon quoi, et puis il enlève les couches de l'oignon, il enlève les couches, en pensant trouver le noyau, et puis à la fin, il n'y en a pas.
Parce que notre singularité, elle se découvre dans la relation. C'est dans la relation qu'on découvre qui on est. On n'est pas soi-même. Pour ça, moi, je pense que la méditation aussi, une des grandes différences, c'est que moi, je pense que la méditation que j'essaye de présenter, elle est d'abord relationnelle. C'est d'abord une manière d'être en relation.
Ouais. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans votre livre. C'est un livre très étonnant, hein, Foutez-vous la paix, parce qu'on a l'impression, voilà, vu son titre, que c'est un propos qui pourrait être un peu vague, voilà, une injonction justement un peu vague. Et en fait, quand on le lit, non seulement c'est extrêmement précis, ce qui est proposé, d'ailleurs, on voit bien la distinction que vous faites. On pourrait croire que c'est la même chose, regarder passer ses émotions à la surface du fleuve, et vous dites, mais non, pas du tout, entrer en relation. Il y a plein de distinctions comme ça, très précises. Et puis aussi, on sent la sagesse de toute une vie. On sent que, pour le dire, vous le prendrez pas mal, mais que vous revenez un peu de loin, au fond, que vous avez connu des émotions, des colères, de la violence, en fait, et que ce livre est la manière dont vous avez réussi, enfin, vous-même, à vous foutre la paix.
Ça, c'est vrai.
Et ça se sent.
Mais je crois que les meilleurs livres qu'on écrit, c'est quand on se les écrit aussi pour soi-même.
Ouais. C'est pour ça que le livre est si réussi et si singulier. On va maintenant écouter Clara Luciani, qui a un peu, figurez-vous, la même histoire que vous.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le crâne. grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Reste mon pauvre cœur qui a tout inventé. Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille, épier ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
C'était Clara Luciani, Le Reste.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Fabrice Midal, sous le soleil de sa veste jaune, plutôt que de Platon. Et avant d'écouter Clara Luciani, vous nous disiez, oui c'est vrai, c'est cette note qu'on entend dans votre livre, que cette sagesse, au fond, vous avez mis du temps à pouvoir l'entrevoir. Et en écoutant Clara Luciani, qui a beaucoup raconté comment elle avait été en fait harcelée au collège, elle était victime de quelque chose de très très difficile dans son enfance, et puis aujourd'hui on a une femme libre, heureuse, et qui fait ce qu'elle aime, et qui a trouvé cette forme de sagesse, me revient une anecdote que vous avez déjà racontée et écrite, qui est que à l'âge de 11 ans, soudain, quelque chose vous saisit dans la cour de l'école, et vous vous mettez à vous dévêtir en hurlant. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on lit, vous souriez, ce livre, Foutez-vous la paix, on comprend que vous parlez en connaissance de cause. Quel regard vous avez sur cet enfant qui avait tellement peur dans la cour de l'école?
Moi, c'était pas harcelé, c'était juste un moment, je trouvais que c'était impossible, que quelque chose comme un sentiment de tout était faux, je sentais que j'avais aucune place. J'avais oublié l'anecdote, ça semble tellement fou. C'est 10 ans plus tard, je rencontre quelqu'un qui était dans la même classe que moi, il me dit « Est-ce que tu te souviens de ça ?» J'avais complètement oublié. Il me dit « J'ai jamais vu une telle expression de souffrance de ma vie. »
Refoulé ?
Refoulé, mmh. Oui. Et oui, je trouvais que c'était impossible.
Impossible à supporter ?
De vivre, quand j'avais 11 ans.
Et ça va mieux maintenant ?
Oui, mais je pense que le fait d'avoir pu hurler était un passage à l'acte qui déjà était signe que d'un désir profond au fond, d'autre chose. Donc, et je crois qu'on traverse l'obscurité que quand on la rencontre. Et enfin, voilà, je peux juste témoigner de ça, que la négation de l'obscurité pour être toujours dans être toujours positif, c'est la pire manière de vivre dans la souffrance. Et que l'au-delà de la souffrance passe par accepter qu'il y a du positif et du négatif, qu'il y a de l'ombre et de la lumière.
Est-ce que cette acceptation, elle a quelque chose à voir avec de l'amour que vous associez souvent à la pratique méditative, ou même avec une forme de présence, présence au bien, présence au mal, présence à la nuit, à la lumière?
Ah, là, vous dites les deux mots peut-être centrales de tout ce qui m'intéresse, c'est la présence et l'amour. Je trouve que c'est ça la question, comment on peut être présent à quelque chose, qu'on apprend très peu ça, que c'est je pense que c'est un des grands malheurs de notre temps, on n'apprend pas à être présent. Et l'amour, c'est le plus important de tout. Et puis, votre émission, c'est Sous le soleil de Platon. Platon, c'est celui qui dit que la philosophie, c'est être embrasé par l'amour, que la philosophie, c'est une forme, c'est reconnaître que Eros est le plus grand des dieux, c'est se laisser pris par le fait qu'il y a quelque chose qui nous manque. Que non, vous êtes pas fou, il y a quelque chose qui vous manque. On n'est pas vraiment encore au monde, il y a quelque chose qui fait défaut. Et plus je sens cette brûlure, plus je suis vivant. C'est ça que je suis pas du tout stoïcien, je suis pas dans le contentement, je veux pas être zen. Moi, je veux être enthousiaste, je veux être brûlé, je veux laisser Eros me traverser, je veux être pris par quelque chose et je médite pour être présent et laisser la vie venir, la vie me surprendre, la vie me déplacer, pouvoir questionner, pouvoir dire non. Donc et je crois que c'est ça l'amour. L'amour, c'est d'un seul coup, il y a que l'amour qui donne la force de sortir d'un certain état de faux confort, de médiocrité. Par amour, on va plus loin. Par l'amour, on a des ailes. C'est ce que dit Platon. Et c'est dommage qu'on entende ça si peu. C'est la philosophie pour les gens, c'est quelque chose de chiant, quelque chose d'un peu lourd.
Mais l'amour, l'amour comble le vide ou nous permet d'accepter qu'il y a du vide?
L'amour nous élève, nous pousse en avant, nous ouvre le cœur, nous fait dissoudre. L'amour dissout ces injonctions qui nous détruisent.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be.
C'est tellement beau, cette reprise par Nick Cave de Let It Be. Mais finalement, votre livre, Foutez-vous la paix et commencez à vivre, aurait pu s'appeler Let It Be.
Absolument, puis tu restes les Beatles, ils ont beaucoup en rapport à ces questions. Ils sont intéressés à la méditation, ils ont pensé toutes ces questions-là. Oui, c'est clair.
C'est étonnant, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu ces paroles comme ça, en fait. Enfin, en tout cas, je confesse que moi-même, pendant des années... j'ai pas vraiment écouté ces paroles, je les ai juste chantées, et puis un jour, j'ai entendu ce que ça voulait dire « foutez-vous la paix ».
C'est ça, c'est vrai.
Alors venons-en à vous, de manière un peu plus, je dirais, plus personnelle, parce que vous êtes un peu, comme je dis tout à l'heure, étrange, mais bon, Baudelaire disait « le beau est toujours bizarre », mais parce que d'un côté, vous avez ces livres très accessibles, et d'autre côté, une autre casquette, on va dire. Alors, vous écrivez des livres très précis, très pointus, tantôt sur l'art moderne, tantôt sur la poésie, tantôt sur Auschwitz. Comment vous réconciliez tous ces maillons de la chaîne?
Je comprends pas pourquoi on trouve que c'est. Moi, je les écris, je pense que ça devrait parler à autant de gens. Parce que comprendre l'art moderne, c'est vraiment aider les gens à être présents aux œuvres d'art. Et que tout mon travail, c'était sortir l'art moderne d'une forme de discours qui met à distance. Moi, je suis frappé, les gens, ils vont dans un musée, ils mettent des écouteurs sur la tête, on leur donne des connaissances. Mais non, la question, c'est comment on entre en présence à une œuvre et comment une œuvre peut nous parler de manière tellement intime. Moi, mes parents, il n'y avait aucune œuvre d'art, ils n'écoutaient pas du tout de la musique. Et une fois, voilà, avec l'école, on a été... voir de la peinture au Centre Georges Pompidou, j'avais 14 ans, et j'ai senti quelque chose s'ouvrir d'inouï. Et je vois pas pourquoi ça parle à tout le monde. Ça devrait parler à tout le monde.
Donc, c'était dans quel tableau?
C'était les tableaux de Kandinsky.
Ah oui?
J'ai vraiment... ça a été un choc de liberté, justement, de liberté par rapport à toutes les injonctions. Et alors, souvent, les gens disent « Oui, moi, je comprends pas. » Mais moi, ce que j'aime beaucoup l'art moderne, parce que justement, il n'y a rien à comprendre.
Il faut être, être là.
Il faut être là, il faut être présent. Mais ça prend un peu de temps. Alors, je me suis beaucoup amusé à faire ça. Par exemple, j'ai fait des séminaires dans des musées où j'aide les gens à se mettre en présence. J'ai fait beaucoup ça avec de la musique. J'ai fait beaucoup de concerts avec des musiciens. Et donc, un musicien joue un morceau de musique. Et puis, j'ai fait un petit exercice de méditation et la personne... la salle réécoute le même morceau. Et souvent, les gens se disent, ah, mais c'est plus le même morceau. Parce qu'ils, juste, on leur montre comment être présent. Et j'étais avec moi, j'aime beaucoup la musique. Et j'étais avec quelqu'un, écouter un grand concert à la Philharmonie la semaine dernière. Il était tellement nerveux, il voulait tellement bien écouter. Il n'arrivait pas à se foutre la paix. Il disait, oh, je vais écouter un grand concert, c'était Barenboim, c'est les trois dernières symphonies de Mozart. Donc il se mettait une pression, il n'arrivait pas à écouter. Et au fond, mon travail, c'est de montrer, mais la peinture,
la poésie,
ou la poésie me touche très profondément. Alors, mon livre sur comprendre l'art moderne, c'est vraiment montrer que la peinture, ça parle de la vie.
Et de la présence.
Et de la présence.
Vous avez une définition de l'expérience esthétique, il me semble, comme un dialogue entre la présence d'une œuvre et la présence de celui qui la regarde.
Oui, et donc je travaille beaucoup, même après, je réfléchis à faire des choses dans des musées pour aider les gens à rentrer en présence. Je trouve que ça serait ça, la vraie médiation culturelle qu'on oublie. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des informations. Donc plus vous avez des informations,
de
plus
culture,
vous n'en avez
de
pas.
La culture.
Voilà, donc ça n'aide pas du tout à une expérience centrale. Et pour la poésie, mon livre « Pourquoi la poésie ?», là, c'était vraiment essayer aussi d'entrer dans pourquoi les poètes au XXe siècle, une des questions de mon livre, c'est pourquoi les poètes au XXe siècle ont été en rapport au mal comme personne.
Oui. Vous pensez que devant un poème ou devant un tableau de Kandinsky, de Rothko, de Pollock, de Dubuffet, tous ces peintres que vous évoquez, c'est plus difficile de se foutre la paix quand on connaît l'histoire de l'art ?
Non.
Quand même pas.
Non, c'est bien de la connaître, mais vous la connaissez pour vous aider à voir, pas pour que ça... pas. Vous pouvez, la connaissance peut faire écran, ou la connaissance peut vous aider à voir. Et donc, il y a une connaissance qui aide. Moi, je suis assez érudit sur l'histoire de l'art, mais ce qui compte, quand j'étais jeune, j'allais régulièrement à Londres, il y avait un grand professeur... d'histoire qui s'appelait John Stier, qui est un des grands professeurs de la Renaissance italienne à Londres, et on allait voir les tableaux ensemble, et il les regardait, il les connaissait par cœur, il les avait montrés à ses élèves pendant des, il avait, quand on y allait, il avait au moins 70 ans, il les regardait comme si c'était la première fois à chaque fois. C'était bouleversant. Et bien sûr, tout ce qu'il avait vu était en lui. Mais il les regardait quand même à neuf.
C'est aussi peut-être une question de confiance. C'est-à-dire que pour oser s'écouter, il faut n'être pas trop inhibé parce qu'on pourrait ressentir comme un manque de culture.
C'est ça.
Donc au fond, la culture ou un peu d'information, ne jetons pas la pierre au guide. On peut les écouter un peu, histoire de s'écouter ensuite soi-même.
C'est pas le problème. Le problème, c'est pas d'avoir les écouteurs sur la tête quand on va dans un musée, ils peuvent dire des choses intéressantes, mais c'est l'idée que c'est ça qui va donner accès à la peinture, me semble une idée qui renforce le malaise. L'idée, je ne saurais jamais assez de choses pour pouvoir apprécier une œuvre d'art.
Ce n'est pas beau parce que, c'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que ?
Oui. Oui, et ça dit quelque chose de tellement profond. Ça nous parle de quelque chose de tellement profond. Ça a beaucoup à voir avec l'amour. La peinture a beaucoup à voir avec l'amour.
Vous pensez à quel tableau, là ?
Tous ceux dont on a parlé. Vous voyez un tableau de Rothko. Pourquoi tant de gens explosent en sanglots devant un tableau de Rothko ? Parce qu'ils sentent quelque chose de l'amour. Du reste, Rothko disait ça. Un jour, il va en Grèce et puis il y a une petite fille qui lui demande qu'est-ce que tu fais ? Et il montre un temple et il dit je fais la même chose. Et c'est ça, au fond. Il crée un temple. Et un temple dans lequel on a rapport à la vie et à la mort. Je crois que ça bouleverse au plus haut point.
Donc finalement, quand on médite, quand on est devant un tableau, quand on écoute de la musique, quand on lit un poème, on fait acte de présence. Et c'est ça peut-être qui veut dire, au fond, se foutre la paix.
Oui.
Être juste là, let it be.
Oui, let it be. Et on voit bien que let it be, dans ce cas-là, c'est vraiment être travaillé, traversé par quelque chose de profond, de l'altérité, de l'autre, de la rencontre. Il y a quelque chose de la rencontre, quelque chose de l'autre, quelque chose de la vie qui vient à nous et qui nous parle, qui nous dit...
Et finalement, ce qui entrave le plus cette rencontre, c'est souvent l'idée qu'on s'en fait.
C'est ça.
Et l'injonction, on y revient. Qui
c'est
nous...
ça.
Si on te dit tu dois t'ouvrir,
c'est foutu. Si on dit c'est ça. C'est ce partage profond qui ouvre la porte. Et c'est ça qu'il faut montrer. C'est cette, au fond, moi, ce qui m'anime dans tous mes livres, c'est de montrer aux gens ce don qu'il y a en eux, ce génie qu'il y a en eux, qu'il faut juste retrouver. Ce que disait Baudelaire, le génie de chacun, c'est sa sensibilité. C'est surprenant parce que nous, on pense que le génie, c'est avoir un truc unique et tout. C'est notre sensibilité, la singularité propre de chacun. C'est ça.
Merci beaucoup, Fabrice Midal. Merci beaucoup. C'est une très jolie conclusion. Je rappelle votre livre, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Et j'en profite pour, en guise de remerciement, essayer de résumer pour les auditeurs la philosophie de la vie que vous nous avez laissé entendre ce matin, une philosophie stoïcienne, non je plaisante, une philosophie très socratique au fond, au sens où Socrate n'est pas un rhéteur, mais quelqu'un qui parle d'amour. Hein, Socrate disait, vous l'avez très bien évoqué, qui n'a jamais aimé ne peut philosopher, parce que peut-être il faut réussir à se mettre à la place de l'autre aussi, c'est ça aussi aimer, et puis faire acte de présence. On a compris aussi que pour se foutre la paix, il ne faut pas vouloir ni devoir se foutre la paix, mais accepter simplement ce qui est là, accepter d'être là avec les autres, de s'ouvrir finalement à la présence dans ce que vous avez si joliment appelé la tendresse du monde. Cette émission a été réalisée par François Audouin, avec à la technique Nicolas Delmas, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours de la semaine à 10h précises sous le soleil de Platon. À suivre, après le Flash Info, rendez-vous Place du Marché avec Aurélie Sfèze. Bonjour Aurélie.
Bonjour Charles. Aujourd'hui, on est au marché de Breil-sur-Roya, dans les Alpes-Maritimes, et on va rencontrer les habitants, les montagnards qui bravent les tempêtes et n'hésitent pas à tendre la main. On va découvrir cette fantastique vallée et des Breillois qui ont été mis à l'épreuve.
Merci Aurélie, voilà qui donne envie, on imagine cette présence en haut des montagnes. À tout à l'heure.